Une icône de la révolution de velours, un dissident anticommuniste, s'est éteint aujourd'hui en République tchèque. Václav Havel est décédé à l'âge de 75 ans. Tout ce qu'il disait méritait d'être traduit, nous dira celle qui a été sa traductrice pendant 13 ans. Le Conseil d'État vaudois passe à gauche. C'est le premier canton roman à disposer d'un exécutif à majorité rose-verte. Le nouvel équilibre des forces politiques au sein du collège n'inquiète pas le conseiller d'État en place, Pascal Broly, s'interrogeait cet après-midi. Ski alpin, le géant pose des problèmes à l'équipe masculine suisse de ski aujourd'hui à Alta Badia en Italie. À l'exception de la 9e place de Didier Defago, les Suisses ont sombré. Nous entendrons les explications de notre envoyé spécial Patrick Delletro. De la neige aujourd'hui, il est tombé 10 à 15 cm sur le long du Jura et des Préalpes. Et cette nuit, le ciel sera dégagé et froid. Les températures seront comprises entre moins 3 et moins 5 degrés. Du gel n'est pas exclu à l'aube. Il fera entre 0 et 2 degrés demain. La météo complète à la fin de cette édition. Bonsoir, figure de la dissidence anticommuniste, conscience morale de son pays avant d'en devenir le président. Václav Havel est décédé aujourd'hui à Prague à l'âge de 75 ans. 6 mois après sa sortie de prison, il avait été l'artisan de la révolution de velours. Il était devenu chef de l'État tchécoslovaque, puis tchèque, de 1989 à 2003. Pour celle qui a été son interprète en français pendant les 13 années de sa présidence, il restera un grand homme. Zuzana Tomanova.
En 90, je suis devenue son interprète. J'étais son interprète. Je suis restée son interprète jusqu'à la fin de son troisième mandat, en fin de compte. Je garde un souvenir ému et reconnaissant de cette période glorieuse, héroïque dirais-je même, parce que c'était quelqu'un de formidable qui a toujours tenu une ligne, disons, en faveur du pays. Il a fait énormément de choses pour le bien de mon pays et je ne peux qu'avoir du respect pour lui. Et tout ce qu'il disait, ça valait le coup d'être traduit.
Des propos recueillis par Alexis Rosenzweig. Le canton de Vaud est le premier canton roman avec un exécutif à majorité de gauche. La verte Béatrice Métraux a ravi aujourd'hui le siège laissé vacant par le décès de l'UDC Jean-Claude Mermoux. Au deuxième tour de l'élection complémentaire, l'écologiste a devancé l'UDC Pierre-Yves Rapa de plus de 13 000 voix. Béatrice Métraux a obtenu 54% des suffrages contre à peine plus de 43% à son concurrent. Et cette nouvelle majorité de gauche n'inquiète pas le conseiller d'État Pascal Broulis.
Non, vous savez, je suis dans une institution, mon métier, c'est autre chose que conseiller d'État. J'assume cette fonction avec engagement, avec joie, avec conviction. Mais la nouvelle personne qui va venir va s'intégrer dans une équipe de 7 conseillères et conseillers d'État et on va travailler main dans la main pour le bien de la communauté vaudoise. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Ce canton a trop souffert entre les années 1990-2000 pour qu'on retombe dans des déchirements et autres. Il faut construire maintenant des stratégies utiles à la cohésion sociale.
Pascal Broulis avec Michel Eman. Le parc naturel régional du Val d'Airain ne verra pas le jour. En Valais, 5 des 7 communes concernées ont dit non à ce projet aujourd'hui. Projet qui devait permettre le développement de la vallée et de son tourisme. Le refus a été très net, jusqu'à 75% aux Agettes, 69% à Évolène. Seuls les habitants de Vé et de Mont-Noble ont accepté le projet. La participation a dépassé les 80% dans certaines communes. 550 prisonniers palestiniens vont retrouver la liberté. Israël procède à leur évacuation ce soir dans le cadre de la deuxième phase de l'accord sur la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit. Il avait été enlevé par le Hamas et sorti mi-octobre de 5 années de détention au secret. 477 détenus palestiniens avaient déjà été libérés il y a 2 mois. Cette fois, aucun prisonnier n'appartient ni au Hamas ni au djihad islamique. Les explications de notre correspondante en Israël, Aude Markovic.
Ils sont 550 prisonniers palestiniens qui ont rejoint en fin de soirée leur foyer en Cisjordanie, à Gaza ou à Jérusalem-Est. Ce sont principalement des hommes de moins de 30 ans condamnés à des peines de 1 à 12 ans de prison pour des violences liées au conflit. Aucun n'appartient au Hamas ou au djihad islamique. Mais le Fatah, qui voulait organiser une cérémonie fastueuse en leur honneur et gagner ainsi quelques points de faveur dans la population palestinienne, s'est trouvé frustré par l'heure tardive de leur libération. Parmi les détenus, le numéro 524 est un jeune franco-palestinien, Salah Hamouri, qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Il avait été arrêté en 2005 pour une tentative d'assassinat contre le rabbin Ovadia Yosef, dirigeant spirituel du parti religieux Chas, une accusation qu'il a toujours niée. La France avait à plusieurs reprises demandé son élargissement anticipé pour bonne conduite. Au total, 1027 prisonniers palestiniens ont été relâchés contre le soldat israélien Gilad Shalit. Aude Markovitch, Radio Suisse Romande, Tel Aviv.
Mitt Romney estime aujourd'hui que le retrait des troupes américaines d'Irak est précipité. Le candidat à l'investiture républicaine en vue de la présidentielle américaine de 2012 critique la stratégie du président Barack Obama. Il estime qu'il n'a pas réussi à maintenir les troupes plus longtemps. Aujourd'hui, les derniers soldats américains ont quitté l'Irak à l'aube. Ce matin, les retraits des troupes interviennent 9 ans après l'invasion du pays et le renversement de Saddam Hussein. La violence continue aujourd'hui au Caire, en Égypte. 10 personnes ont été tuées et près de 500 blessées ces 3 derniers jours. Les manifestants continuent d'exiger que l'armée rende le pouvoir au peuple. Et les deux camps ont échangé des accusations de brutalité et de vandalisme, d'après un journaliste de l'AFP sur place. Affrontements aussi en Syrie. L'armée et des déserteurs se sont opposés dans le centre et dans le nord-ouest du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 10 civils et 6 soldats ont trouvé la mort. Les opérations de secours se poursuivent aux Philippines. Ils tentent de retrouver les disparus après le passage du typhon Washi. Le vent et les fortes pluies ont tué plus de 650 personnes depuis vendredi, d'après un dernier bilan. La Suisse pourrait accueillir des moudjahidines du peuple d'Iran. C'est une information du journal NZZ Am Sonntag, publiée aujourd'hui. Ces moudjahidines occupent le camp d'Ashraf en Irak depuis 25 ans, camp qui va être évacué à la fin de l'année sur les ordres du gouvernement irakien de Nouri al-Maliki. La Confédération envisage d'accepter des réfugiés, mais dans une lettre datée du 2 décembre, elle refuse pourtant d'accueillir 11 blessés issus d'Ashraf. Ces blessés sont jugés à risque pour la sécurité intérieure et extérieure du pays. Pourtant, avec les hôpitaux de Genève et Lausanne, la prise en charge des blessés a déjà été organisée par une délégation de députés. Jean-Charles Riel, médecin et ancien conseiller national socialiste genevois.
Une fois que vous avez tout fait ça, on vient vous dire que les renseignements obtenus par l'ODM de la part du service des renseignements de la Confédération ne permet pas à 11 blessés, c'est surréaliste de penser que ces 11 blessés serait une menace grave. Il y a une telle pression. Parce que sa sécurité extérieure de la Suisse, je la vois qu'à travers l'Iran qui ferait pression sur la Suisse. Je ne vois pas en quoi 11 blessés à Genève et à Lausanne sont un danger pour l'extérieur de la Suisse. L'intérieur, je vois encore s'ils étaient des terroristes déguisés en blessés. La sécurité extérieure de la Suisse, ça veut dire que ça dérange un autre État. Je ne vois pas quel autre danger d'une sécurité extérieure.
Les banques suisses en délicatesse avec le fisc américain se trouvent peut-être face à une porte de sortie. Selon la Sonntag Zeitung, Michael Ambühl, le secrétaire d'État aux affaires financières internationales, a décroché un compromis avec les États-Unis. En échange des documents concernant leur clientèle américaine, les banques concernées échapperaient aux poursuites pénales. Les noms des clients ne seront pas transmis, mais les banques auraient jusqu'à mardi pour se déclarer. Ce tour de passe-passe sacrifiera encore une fois les clients des banques suisses. Carlo Lombardini, avocat fiscaliste.
Le but de la démarche est de permettre aux Américains d'obtenir les noms des clients. D'ailleurs, il y a des requêtes d'entraide qui sont déjà arrivées. On a pu lire dans la presse qu'en ce qui concerne certaines banques, ces requêtes d'entraide ont déjà été notifiées aux clients. Donc toute la démarche dans la perspective américaine n'a qu'un sens, c'est obtenir davantage de noms. Et c'est là la véritable défaite pour la Suisse dans tout ce processus, c'est que ces requêtes d'entraide tendent à permettre l'obtention de noms de clients sur la base d'une description d'un comportement générique, ce qui représente exactement les phishing expeditions dont on a clamé pendant les dernières années haut et fort qu'elles n'allaient jamais survenir.
Carlo Lombardini avec Esther Coco. Et en ski alpin, on vous le disait en titre, l'italien Massimo Blardone a remporté aujourd'hui le géant d'Alta Badia en Italie. Il a devancé les autrichiens Hannes Reichelt et Philipp Schögerhofer. Du côté de l'équipe suisse, par contre, à l'exception de Didier Defago, 9e, les autres ont sombré. Carlo Jonka termine 23e et tous les autres ont échoué en première manche. Patrick Delletro.
Le géant suisse n'est plus ce qu'il était du temps des succès de Michael von Grüningen, Didier Kusch, Daniel Albrecht ou Carlo Jonka. La discipline est devenue une affaire de spécialistes ou de skieurs d'exception. En Suisse, même si le géant est la base de l'entraînement, les honneurs sont rendus aux spécialistes de vitesse et à l'heure de la spécialisation, on continue à parler de polyvalence. C'est illusoire dans le ski actuel. Ils sont rares, très rares à pouvoir s'imposer en technique et en vitesse. Axel Lund-Svindal y parvient, Bodhi Miller aussi dans ses grands jours. En Suisse, Carlo Jonka a cette capacité, mais est en pleine période de doute. Didier Kusch, lui, sent le poids des années de compétition et peine à prendre le train en géant, même s'il reste l'un des meilleurs en vitesse. Alors que faire ? Former des spécialistes. Les succès, si c'est bien ce que veulent les dirigeants, sont à ce prix. Il n'y a pas d'Ionka, Kusch ou Defago en Suisse. Les Français l'ont bien compris, ils ont de vraies équipes dans les différentes disciplines et ça commence à très bien fonctionner. Patrick Delletro, Radio Suisse Romande, Alta Badia.
C'est la fin de cette édition. On prend des nouvelles du ciel pour terminer.